Alors, mesdames, messieurs, je voudrais dire toute la joie que j'ai d'accueillir ici le professeur Christian Michel. Nous nous connaissons depuis pas mal d'années et j'ai toujours apprécié énormément le professeur qu'il est, que je sais qu'il est, par les échos qu'on a de ses nombreux étudiants et de ses élèves, mais aussi le savant qu'il est. Et il me semblait qu'il était une des personnalités qui devait impérativement être ici au collège pour parler de sujets qui l'intéressent. Alors, au lieu de parler de sujets auxquels je m'attendais à le voir, sur lesquels je m'attendais à le voir intervenir, il a proposé une série de cours sur un thème qui me paraît absolument fondamental, passionnant, mais si peu étudié, qui est le titre du tableau. Alors, je voudrais quand même dire quelques mots pour les personnes ici qui ne connaissent pas Christian Michel. À mon avis, elles sont en minorité. Christian Michel est d'abord un agrégé d'histoire. Et il est venu à l'histoire de l'art par la voie de l'histoire, ce qui mérite d'être souligné. Il a été un temps attaché de recherche au CNRS au titre de la Fondation de Thiers. Puis il a été membre de l'École française de Rome entre 88 et 89. En 92, Christian Michel soutient une thèse d'État sur Charles-Nicolas Cochin et l'art des Lumières. Et la même année, il est nommé professeur d'histoire de l'art moderne à Paris 10 Nanterre. Depuis octobre 2003, nous ne bénéficions plus de son enseignement puisqu'il est allé en Suisse pour être professeur ordinaire d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne en 2003. Donc. Quelques mots sur ces publications qui sont très nombreuses, très diverses, même si une grande partie d'entre elles concerne le champ des, du XVIIIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle. Les livres qu'il a consacrés à Charles-Nicolas Cochin, d'abord sur le livre illustré au XVIIIe siècle, ensuite le voyage d'Italie, dont il a fait une édition critique en 1991, et enfin le livre qui est sa thèse, Charles-Nicolas Cochin et l'art des Lumières, en 1993. Récemment, un livre petit de taille, mais important par les nombreux problèmes qu'il soulève, le célèbre Watteau, qu'il a publié à Genève en 2007. Et puis, une sorte de grande œuvre qu'il faut citer encore, c'est un ouvrage de taille, puisqu'il devrait être couvert seulement par la publication de 12 volumes, pas moins. C'est la publication avec Jacqueline Lichtenstein, notre amie philosophe, des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, une édition critique intégrale de tous ces textes qui ont été en partie seulement publiés, qui se situent entre 1653 et 1792. Ça, c'est une entreprise, on peut dire, vraiment monumentale, et je vous souhaite de la terminer tout de même relativement vite. Ça vous libérera pour d'autres travaux. Et je voudrais ne pas retarder le plaisir que nous aurons à l'écouter. Merci en tout cas encore d'être venu.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Je dois dire que je me sens très intimidé de parler dans cette enceinte, ce qui n'est pas tellement dans mes habitudes, que je vous prie de m'excuser si la qualité du discours n'est pas au niveau. On ne parle pas de façon impune. On ne parle pas impunément au Collège de France, lieu relatif dont le prestige remonte au XVIe siècle. Alors, je voudrais beaucoup remercier Roland Recht de m'avoir invité et le Collège des professeurs et justifier aussi le sujet que j'ai prévu d'aborder dans cette série de cours. Sujet complexe. Et qu'il me faudra d'abord essayer de définir plus précisément ce qu'on entend ou ce qu'on a entendu et qu'on entend encore aujourd'hui par titre. Au-delà, c'est le titre, ce n'est pas parler d'un paragone, de quelque chose qui est parallèle au tableau, secondaire par rapport au tableau. Je reprendrai volontiers la formule qu'employait Marcel Duchamp, qui a servi d'ailleurs au livre de Welshman sur la période contemporaine. Le titre est une couleur invisible ou une couleur supplémentaire que l'artiste ajoute au tableau. Et nous regardons difficilement un tableau sans passer d'une façon ou d'une autre par son titre. Or, ces titres, et ce sera l'objet du cours d'aujourd'hui, ne sont pour la plupart du temps qu'une invention récente. La notion de titre de la peinture, de titre pour la peinture, émerge progressivement au XVIIIe siècle, et c'est sous cet aspect que je voudrais montrer comment il se structure progressivement, comment même le mot titre vient se substituer au mot inscription, et comment ce mot, cette notion de titre, va bouleverser la peinture, modifier les modes de représentation. Il ne s'agit pas de parler du titre pour le titre, mais du titre pour le tableau. Dans les deux prochains cours, j'essaierai de vous montrer comment le titre est intégré par bien des artistes dans leur conception même de la peinture. Et je consacrerai la dernière séance au titre a posteriori, c'est-à-dire à la façon dont l'histoire de l'art a ajouté des titres à un certain nombre d'œuvres et comment ces titres ont été amenés à modifier l'œuvre à proprement parler. Alors, le titre reste pour nous, à ce point-là, une évidence. Je vous montre la fiche typique de la réunion des musées nationaux, Joconde. Quand il s'agit de définir une œuvre, domaine, peinture, type d'objet, tableau, c'est les seules choses que je vous ai laissées d'une de ces fiches, le titre passe même avant auteur et exécutant dans la fiche Joconde. Les principes, bon, je ne vais pas commenter l'ensemble des rubriques, c'est-à-dire que le principe est emprunté aux règles de la des bibliothécaires. Lorsque une fiche sur un livre comprend le nom de l'auteur, le titre, le pays, la date, du moins quand on les connaît. Je vous ai à peine parlé de ça en présence de Daniel Roche. Et au-delà, c'est une question qui finalement peut être résolue pour les livres, du moins quand la page de titre n'a pas été arrachée ou quand elle existe, elle naît progressivement au cours du XVe siècle. Mais la question ne se pose pas de la même façon pour un tableau où le titre n'est pas intégré de la même façon comme il l'est matériellement dans un livre. Et il s'agit donc de voir comment ces titres peuvent déterminer notre façon de lire l'œuvre. Et je voudrais commencer par un texte sur lequel je reviendrai beaucoup aujourd'hui, qui est un peu à l'origine, en tout cas dans le monde français, d'une réflexion sur ce qui va devenir le titre, terme que n'emploie pas l'abbé Dubos, mais qui va être répété, ressassé pendant tout le cours du XVIIIe siècle. J'en reparlerai un peu plus tard. Et l'abbé Dubos donc, est l'auteur de ses Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, paru en 1719, texte absolument fondamental qui bouleverse la réflexion sur l'art pour le XVIIIe siècle. Texte réédité à 9 reprises, traduit en allemand, en anglais dès le XVIIIe siècle, et qui pose la question de la peinture, non pas du côté du producteur, mais du côté du récepteur. Et il serait trop long de vous présenter l'abbé Dubos, qui pose, dans ce texte, pose la question de la difficulté de la simple imitation. Je me suis étonné plusieurs fois que les peintres qui ont un si grand intérêt à nous faire reconnaître les personnages dont ils veulent se servir pour nous toucher, et qui doivent rencontrer tant de difficultés à les faire reconnaître à l'aide du pinceau, n'accompagnassent pas toujours leur tableau d'histoire d'une courte inscription. Les trois quarts des spectateurs, qui sont d'ailleurs très capables de rendre justice à l'ouvrage, ne sont point assez lettrés pour deviner le sujet du tableau. Il est quelquefois pour eux une belle personne qui plaît, mais qui parle une langue qu'ils n'entendent point. On s'ennuie bientôt de la regarder, parce que la durée des plaisirs où l'esprit ne prend point de part est bien courte. Il donne un certain nombre d'exemples, justement, de ce qui est traditionnellement condamné, c'est-à-dire la peinture avec inscription du XIIIe et XIVe siècle, des tapisseries. Il donne, qui remontent d'ailleurs à d'autres œuvres disparues mais critiquées, les tableaux de Polygnote qui portaient aussi des inscriptions. Mais il précise qu'il faut faire parler la peinture et que finalement, une inscription peut en tenir lieu. Raphaël et Carrache en ont usé ainsi. Coypel a placé même des bouts de verre de Virgile dans la galerie du Palais Royal pour aider à l'intelligence de ses sujets qu'il avait tirés de l'Énéide. Déjà, les peintres dont on grave les ouvrages commencent à sentir l'utilité de ces inscriptions et ils en mettent au bas des estampes qui se font d'après les tableaux. La question que pose l'abbé Dubos, c'est juste, il emploie le terme inscription, qui n'est pas du tout neutre dans la naissance même du titre, c'est-à-dire que l'inscription doit être concise. Il y a eu de nombreux débats autour des inscriptions dans la France du XVIIe siècle, et je vous donne un exemple, je vais baisser légèrement la lumière pour vous, à travers un des inscriptions de la Galerie des Glaces, de la Grande Galerie à Versailles. Les inscriptions qui ont été refaites à trois reprises. Je vous montre, je vous ai mis le texte initial d'une inscription peut-être de Rincent, peut-être de l'abbé Charpentier. Le roi délibère s'il attaquera les Hollandais et après diverses réflexions. Après diverses réflexions que la prudence que vous avez ici et la valeur que vous avez ici lui font faire, il se détermine à la guerre par le conseil de la justice. La valeur, sous les traits de Mars, lui montre la gloire, la prudence lui montre les dangers et les horreurs de la guerre. Bon, cette inscription est une explication. Elle est remplacée, Boileau critique très vigoureusement les inscriptions de Charpentier, et l'inscription a été remplacée par « Résolution de faire la guerre aux Hollandais, 1671 ». C'est-à-dire que l'inscription n'est plus explicative, elle est que le titre, tel que nous les pratiquons encore aujourd'hui, garde ce caractère propre à l'inscription, c'est-à-dire la concision. Et la concision qui n'est pas sans poser bien des problèmes lorsqu'il s'agit justement de choisir, de rendre compte d'un terme. L'inscription donc doit aider à comprendre l'œuvre, à la déterminer. Et, les fonctions des titres, justement, sont avant tout d'aider à connaître. Et aider à connaître, vous me pardonnerez d'aller trouver un texte qui me paraît extrêmement éclairant, qui te permet de mieux distinguer les différents types d'inscriptions. C'est dans la logique de Port-Royal de Arnaud et Nicole, un des textes les plus souvent publiés ou réédités, qui a connu, je crois, une vingtaine d'éditions entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et qui pose la question de comment rendre compte par des mots de la nature d'une chose. Il s'agit de distinguer, justement, dans la logique de Port-Royal, ce qui est définition et ce qui est description. Le mot peut être à la fois une définition, c'est-à-dire rendre compte d'un objet par son genre et par ses différences, ou description, c'est rendre compte d'un objet par ses attributs, par ses accidents, pour reprendre. Donc, la définition de l'homme est un animal raisonnable, l'esprit une substance qui pense, etc. Il s'agit de rendre compte, justement, par le genre et par la différence. La description moins exacte, qu'on appelle description, est celle qui donne quelques connaissances d'une chose par les accidents qui lui sont propres et qui la détermine assez pour en donner quelques idées qui la discernent des autres. Et je voudrais vous en donner, disons, distinguer ces deux types de titres à travers des titres qui, naturellement, ne sont pas d'origine, qui sont deux tableaux de Samuel van Oorschoten, l'un qui se trouve à Durham Park et que l'on appelle « Vue à travers le corridor » ou « Vue du corridor » ou éventuellement « Corridor avec la cage ouverte ». Alors là, on bascule déjà vers la description. Et le tableau sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est au Louvre, très probablement de Oorschoten, et qui, depuis le XIXe siècle, porte le titre « Les pantoufles », en raison des deux pantoufles que nous avons ici. C'est-à-dire que qu'ont proposé les historiens, ils sont naturellement pas d'origine, sont l'un du côté de la définition, c'est-à-dire le genre peinture d'architecture vue d'un corridor, l'autre du côté de la description, c'est-à-dire chercher l'accident. Et les quelques historiens qui appellent ce paysage, ce tableau, corridor avec la cage ouverte, eux reviennent justement aux accidents, c'est-à-dire à la description. Et cette distinction entre le titre descriptif et le titre de définition est une distinction dont j'aurai pas mal à me servir pendant les quelques séances que je vais consacrer au titre. Alors, juste décrire par les accidents, décrire aussi par la question du titre est posée, à mon sens, de façon assez passionnante par Whistler à propos de ce tableau qui se trouve au Fogg, à Cambridge, qu'il a intitulé « Nocturne en gris et or ». Tableau datant de 1876. Et on sait que que les titres de Whistler, j'y reviendrai, n'ont suscité une certaine réticence chez bon nombre de critiques anglais. Et on a une lettre de Whistler publiée dans The World en 1878 qui s'applique admirablement à ce tableau. Pourquoi n'appellerais-je pas mes œuvres symphonie, arrangement, harmonie et nocturne? Je sais que beaucoup de gens bien trouvent ma nomenclature amusante et me trouvent moi-même excentrique. Oui, excentrique est l'adjectif qu'ils ont trouvé pour moi. La grande majorité du peuple anglais ne peut ni ne veut considérer un tableau comme un tableau qui ne soit pas rattaché à l'histoire qu'il est supposé raconter. Mon tableau « Harmony in Grain and Gold » est une illustration de mon intention. Une scène de neige avec une simple figure noire, que vous entrevoyez ici, et une taverne éclairée. Je ne me soucie en rien du passé, du présent ou de l'avenir de la figure noire placée ici parce que le noir était désirable à cet endroit-là. Tout ce que je sais est que ma combinaison de gris et d'or est la base du tableau. Maintenant, c'est ce que mes amis ne peuvent comprendre. Ils disent « Pourquoi ne pas l'appeler Trotivex ?» et le vendre pour une confortable harmonie de guinée d'or. Trotivec est un personnage d'une nouvelle de Dickens, The Chimes. C'est un sonneur de carillon qui rêve d'une décadence profonde qui lui arrive. C'est-à-dire, renvoyé à Dickens, immédiatement, le tableau devient plus intéressant pour le public bourgeois anglais, reconnaissant ainsi naïvement que, sans baptême, il n'y a pas de marché. La peinture doit avoir ses propres mérites, ne pas dépendre d'un intérêt dramatique, légendaire ou local. Comme la musique et la poésie du son, la peinture et la poésie de la vue. C'est-à-dire que là, le choix du titre par Whistler est destiné à rendre compte d'intention et sortir complètement la peinture de l'anecdotique. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de décrire, non pas par les accidents, l'accident c'est Trottivec, mais d'écrire par le genre et la différence. D'autres, il a appelé un certain nombre d'autres de ses tableaux harmonie, numérotés, avec différentes teintes. Pour lui, le genre de sa peinture, c'est une harmonie en gris et or, et non pas personnage sortant d'une taverne ou personnage se rendant dans une taverne. Donc, ainsi, le titre entre en compte dans l'explication, dans la compréhension d'une œuvre de façon déterminante, justement cette couleur invisible dont parlait Duchamp et sur laquelle je reviendrai. Ainsi, en même temps, comment appliquer un titre ? Et je voudrais m'arrêter brièvement sur ce qui ne sont pas encore des titres, ce qui ne sont même pas des inscriptions, mais qui fonctionne justement sur le mode de l'inscription, qui sont ces tableaux que l'on appelle traditionnellement du nom des mots prononcés par une des figures. On parle généralement lorsque la rencontre du Christ et de la Madeleine d'un Olim et Tangere. En ce qui concerne Neptune calmant la tempête, jusqu'au XXe siècle, on appelait ces tableaux systématiquement des quos ego, renvoyant donc à un hémistiche de Virgile dans l'Énéide, qui est cité dans tous les manuels de rhétorique, donc appris et enseigné dans tous les collèges, comme le modèle même d'une figure de rhétorique qui est l'aposiopèse. L'interruption, c'est le moment où Neptune menace les vents et ne termine même pas sa phrase « Vous que je vais » et la tempête dure encore et immédiatement la tempête s'arrête. C'est-à-dire que ici, Raphaël, dans le dessin qu'il a fourni à Marc-Antoine Raimondi, comme Rubens dans le tableau qui se trouve aujourd'hui à Dresde, veulent représenter ce mouvement, ce moment, cette efficacité verbale du dieu qui par des mots arrive à faire fuir les vents. Et c'est paradoxalement, la gravure de Raimondi comprend beaucoup d'inscriptions qui vise à expliquer toutes les scènes latérales. Il n'y a pas d'inscription pour la scène centrale. Tout lecteur de Virgile, et normalement c'est le cas de bon nombre de ses acquéreurs potentiels, est capable de comprendre sans mots, et le quos ego devient, je dirais, un titre particulièrement efficace, sauf qu'il ne peut plus être employé aujourd'hui, c'est-à-dire que si on met comme simple étiquette dans un musée « quos ego », comme je vous l'ai mis ici, j'ai bien peur que cela ne parle plus autant qu'aux élèves des collèges des 16e au 19e siècle. Et donc le titre en cela prend toujours ce caractère explicatif, mais ici sur un plan davantage narratif. Et je voudrais revenir sur un autre problème que pose le titre, qui est le titre appliqué. Je vous remontre les pantoufles à travers une photo que j'ai prise au Louvre. Les couleurs sur mon écran sont meilleures que celles du tableau que j'ai scanné dans un livre, mais ça ne se voit guère ici. Et justement pour s'interroger sur l'accident qui est choisi dans le cadre descriptif, c'est-à-dire les pantoufles, qui sont au point de départ de la plupart des analyses du tableau, d'ailleurs. Les pantoufles qui traînent signifient naturellement une vie dissolue. En revanche, si ça avait été le balai du premier point, ça aurait été le sens de l'ordre propre à la Hollande du XVIIe siècle. Alors, allant dans le sens des pantoufles, il y a le tableau dans le tableau sur lequel je voudrais m'arrêter, parce qu'il pose clairement des problèmes du titre et des relations de titre. Le tableau dans le tableau, en fait, c'est un tableau un tableau de Netscher qui se trouve au musée de Gotha et dont il est impossible d'avoir de trouver une reproduction en couleur. Donc Netscher lui-même ayant repris la composition et la figure d'un tableau de Terborch, de Gerhard Terborch, qui a eu un succès absolument énorme, dont lui-même a peint 5 ou 6 versions, je m'arrêterai sur le tableau de Terborch et surtout sur le titre qui lui est donné. Je vous montre la version qui nous intéresse le plus, celle de Berlin, une autre version un peu antérieure qui se trouve à Amsterdam. Ce tableau, on l'appelle l'instruction paternelle, en raison d'une gravure qui a été exécutée par Ville en 1765, gravure largement diffusée, dédiée à l'impératrice, gravure tellement célèbre qu'elle sert à Goethe dans les affinités électives pour la construction de tableaux vivants, même pour la réflexion sur les relations un peu complexes qui unissent les 4 personnages des affinités électives. Et donc Ville a gravé avec une certaine précision, donc a ajouté ce titre, et la gravure a un titre, ce que le tableau n'a pas, ou la gravure peut avoir un titre, j'y reviendrai, le tableau n'en a pas, mais il y a eu une projection du titre de la gravure sur le tableau. Et il a fallu attendre ces dernières années pour que je vous montre un détail que j'ai pris du tableau à Berlin, un peu agrandi. Le père paraît un petit peu jeune pour une fille de cet âge, qu'il a un geste des doigts, dans d'autres versions il tient une pièce de monnaie ou une bague, et que l'on suppose bien davantage qu'il s'agit d'une scène de maison close. La vieille dame qui boit n'est pas la mère qui assiste à la scène sagement pendant que son mari donne des conseils à sa fille, mais est la maquerelle qui intervient entre l'un et l'autre. On a réintégré ce tableau dans le genre spécifique des Bordelchen, des scènes de maison close, genre assez répandu dans la peinture hollandaise, mais il a fallu faire complètement l'économie du titre et de 1,5 siècle de lecture, à commencer la lecture de Goethe, et lorsque le tableau a été vendu, il a été acheté pour les collections prussiennes. Immédiatement, il était jugé fondamental, mais tableau moral, effectivement, et non pas inséré. Alors, au-delà, il y a d'autres tableaux du même genre, n'ayant pas eu la chance ou la malchance d'être gravés par un graveur célèbre, portent d'autres types de titres, c'est-à-dire la robe blanche, et on met davantage l'accent pour Terborch, pour Metsus, sur leur façon de traiter les soieries que sur le caractère narratif de la scène. Donc, une fois de plus, l'explication passe par le titre, le choix de lecture passe par le titre, et le titre n'est pas forcément celui qui a été conçu à l'origine. La peinture hollandaise du XVIIe siècle n'avait naturellement pas de titre. Un autre exemple que j'avais pris dans mon livre sur Watteau, qui est le tableau de Berlin ou celui du Louvre, que l'on a toujours appelé l'embarquement pour Cythère, parce que la version de Berlin avait été gravée par Tardieu sous le titre l'embarquement pour Cythère. Le titre correspond parfaitement bien à la gravure, c'est-à-dire que nous avons tendance à lire une image de gauche à droite. Donc, dans la gravure, les figures ont l'air de se rendre vers le bateau. Dans le tableau, elles donnent plutôt l'impression de venir du bateau vers l'île. Et il a fallu attendre, je crois, les années 1960 pour qu'on s'interroge pour savoir si c'est un embarquement ou un débarquement ou un pèlerinage. Autant de graves questions. Et ce tableau, bien, chez Baudelaire, c'est naturellement un embarquement pour Cythère. Et nourrit une partie de la littérature du XIXe siècle sous cet aspect. Donc, enfin, dernier mode d'appropriation pour distinguer, qui est le surnom. De nouveau, la belle ferronnière, tout bêtement, c'est quand même préférable que de dire portrait de femme, il y en a beaucoup. On pense que c'est Madame Galeazzi, mais c'est loin d'être sûr. On a fait beaucoup, beaucoup de propositions. Portrait de femme par Léonard de Vinci, c'est le cas aussi d'un autre dont le surnom est assez célèbre et dont le surnom et dont le titre est différent selon la langue que l'on utilise. En anglais, c'est la Mona Lisa. En français, c'est la Joconde, ce qui modifie complètement le rapport que l'on peut avoir au tableau par le biais de son surnom. Et les Vierges de Raphaël étant particulièrement appréciées, comme vous le savez bien, bien, il a fallu essayer de distinguer toutes ces vierges, soit par le nom d'un de leurs propriétaires, ou de leur propriétaire initial, ou de leur propriétaire final, la Madone Capocoperiowit, la Vierge de la Maison d'Orléans, la Vierge de Lorette, la belle jardinière, la Grande Sainte Famille de François Ier, la Vierge aux poissons, etc. C'est-à-dire que là, on est dans un système de titres qui est avant tout un système de distinction des œuvres les unes par rapport aux autres. Distinction indispensable pour peu que l'on connaisse l'ensemble des Vierges de Raphaël et que l'on sache que la belle jardinière est à peu près contemporaine de la Madone au Chardonnay des Offices et que ces surnoms fonctionnent aussi dans un mode de distinction nécessaire. Donc vous voyez, vous me pardonnerez d'avoir été si long sur toutes ces notions de sur ces notions de titre. Je voudrais aussi revenir à Whistler, pour qui le titre est avant tout destiné à connoter un tableau. On n'est plus dans le domaine de la dénotation, mais de la connotation. Le renvoyer justement ici au domaine musical, et on le retrouvera beaucoup au début du XXe siècle, j'y reviendrai dans deux semaines. Donc, et le connoter aussi avec les titres de Gauguin, titres, je n'en sais rien, en tout cas inscription. Et la différence, justement, Gauguin, qui ne mettait aucune inscription dans ses tableaux avant son premier voyage à Tahiti, va systématiquement ajouter une phrase en tahitien que vous entrevoyez ici, Tetiare Farani, je ne sais pas comment ça se prononce, que l'on traduit par les fleurs françaises. Titre incompréhensible, évidemment, pour à peu près tout le monde. Apparemment, il y a un ensemble de titres de Gauguin, j'y reviendrai aussi, qui ne sont pas d'un tahitien absolument parfait. Mais il s'agit là de connoter par une expression, par une inscription, d'accroître le caractère exotique, de ce type de peinture, c'est-à-dire les mots insérés dans le tableau correspondent ici nettement à une façon de réintégrer le tableau dans cette volonté de primitivisme qu'a revendiqué Gauguin lors de ses séjours dans le Pacifique. C'est-à-dire que là, on a au-delà de l'explication, la connotation tient ici une place importante dans la définition du titre. Alors, je passe parce que le temps avance un peu vite, et j'aimerais passer justement au problème que pose la peinture avant les titres et le problème de l'invention même des titres. Poussin ne raisonnait absolument pas en termes de titres pour ses tableaux et je vous montre ici un des exemples les plus illustres d'un tableau que l'on appelle aujourd'hui paysage avec Pyramétis B. Le genre et la différence. Le genre, c'est le paysage. La différence, c'est les figures. Or, qu'écrit Poussin à propos de ce Stella, à propos de ce tableau, qu'il avait fait pour le Cavalier d'Al Pozzo, un grand paysage dans lequel j'ai essayé de représenter une tempête sur terre, imitant le mieux que j'ai pu l'effet d'un vent impétueux, d'un air rempli d'obscurité, de pluie, d'éclairs et de foudre, qui tombe en plusieurs endroits, non sans y faire du désordre. Toutes les figures qu'on y voit jouent leur personnage selon le temps qu'il fait, les unes fuient, etc. D'un côté, un berger court, abandonne son troupeau, voyant un lion qui, après avoir mis par terre certains bouviers, en attaque d'autres dont les uns se défendent, et les autres piquent leurs bœufs et tâchent de se sauver. Dans ce désordre, la poussière s'élève par gros tourbillons. Un chien est assez éloigné, aboie et se hérisse le poil, sans oser approcher. Sur le devant du tableau, l'on voit Pyrame mort étendu par terre et auprès de lui Thisbé qui s'abandonne à la douleur. Faut-il vraiment donner une place centrale à Pyrame et Thisbé, c'est-à-dire à la différence qui constitue le titre? Faut-il appeler ce tableau Pyrame et Thisbé, paysage avec Pyrame et Thisbé, alors que le projet de Poussin présenté dans sa lettre, il faut toujours se méfier naturellement des lettres des écrits d'artistes, que son projet était de peindre une tempête sur la terre, rivalisant ainsi avec certains peintres antiques qui avaient peint des tempêtes sur mer et voulant. Se situant dans la postérité d'un autre tableau que lui on appelle La Tempête, peint par Giorgione, et dont on cherche désespérément le sens. Salvatore Essetis a proposé plein de choses qui ne m'ont pas convaincu parfaitement, malgré l'intérêt de ces analyses. C'est-à-dire que devrait-on appeler ce tableau La Tempête au lieu de l'appeler Paysage avec. Et je pense. La question, à mon sens, ici, serait mal posée, c'est-à-dire que Poussin n'envisage pas un nom, une dénomination, n'envisage pas cette limitation, cette restriction d'une œuvre par le biais d'une courte inscription. De nouveau, le titre ne peut pas être expliqué. Héritier d'inscription ne peut pas être explicatif, mais devient immédiatement une forme de désignation. La conception même de la peinture est d'avant le XVIIIe siècle, peut intégrer un sujet, n'intégrera pas vraiment un titre. Or, je vous ai montré tout à l'heure une fiche Joconde, j'aurais pu vous en montrer de n'importe quelle fiche de n'importe quel musée, on ne peut pas ne pas avoir un titre. Il faut donc l'inventer et essayer de voir si on fabriquera, sans poser la question dans ces termes, un titre descriptif ou un titre de définition. Et ainsi, cette difficulté propre à la peinture sera résolue, mais dans bien des cas, terriblement simplifiée par l'invention d'un titre, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas revenir aux analyses si célèbres de Michel Foucault au début des mots et des choses, en quelle mesure peut-on trouver un mode de réduction par le mot et ici par des mots courts, par une inscription bref, de ce qui est du ressort du visuel. Et c'est aussi une des difficultés auxquelles se sont trouvés confrontés un certain nombre de peintres lorsqu'on s'est mis à leur demander des titres pour leurs tableaux, pour les exposer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'inscription. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, il pouvait y avoir des inscriptions qui ne sont pas des titres. Je vous donne ici un exemple parmi de très nombreux, qui est l'ensemble du cloître de l'église Sant'Onofrio à Rome, cloître peint autour de 1600, de toutes sortes de scènes de la vie de Saint-Onufre, de Sant'Onofrio. Je pense que sauf les quelques savants, il n'est pas sûr que chacun ait connu par cœur tous les épisodes depuis sa naissance, le fait que quand il était petit enfant, il prêtait sa balle au Christ qui la lui tenait, qu'il a décidé, etc., etc. Donc, l'ensemble des scènes nous est ici largement commenté par description bilingue. Je vous en donne ici un exemple qui bilingue italien et latin. On s'adressait, je pense que donc on visait aussi le peuple et pas seulement et pas seulement les doctes. Et vous avez ici cet onufre qui recueille les derniers soupirs de Saint Panus. Bon, les tableaux ne sont pas absolument extraordinaires, plutôt les fresques ne sont pas d'une narrativité très claire, et les inscriptions sont nécessaires. Maintenant, on n'admettrait pas aujourd'hui un titre de 4 lignes, et il s'agit de condenser, de réduire, pour en rester justement dans le principe de l'inscription telle que l'inscription a été pensée au XVIIe siècle. Les exemples qui seront aussi pris pour défendre au XVIIIe siècle les titres, c'est les quelques formes artistiques. On critique naturellement les phylactères, les rouleaux. Et ici, je vous montre une tapisserie que vous avez eu l'occasion de voir au Grand Palais il y a jusqu'à la semaine dernière. Je crois que l'exposition vient de se terminer, la tenture de la vue du Christ de la chaise Dieu, où les prophètes exposent justement tout ce qui va servir à construire le système de concordance entre la vie du Christ et l'Ancien Testament. Et les tapisseries, je vous montre ici un exemple de la tenture de Saint-Mamès, portent elles aussi de longues inscriptions. Et le XVIIe siècle, en tout cas dans le cadre français des Gobelins, n'y a guère renoncé. Les tentures d'après Lebrun, d'après Jouvenet, d'après Coypel, portent toutes ce que l'on appelle un titre et que j'hésiterais quand même à appeler un titre vu la longueur. Donc, il y a ici un certain nombre de... En revanche, là où le titre peut éventuellement émerger, c'est aussi un exemple que l'on prend, ce sont les gravures. La plupart des gravures ont des inscriptions, beaucoup plus que des titres, des dédicaces, de longues phrases, des vers, des distiques. Mais peut-être ce que propose Madame Bacgrasse, qui voit ici les premières émergences d'un vrai titre, je me méfierais toujours du primum in venit, de la première occurrence, c'est ces titres que Koch a donné lorsqu'il a fait graver dans les années 1550 les grands paysages de Bruegel. Il y a une douzaine de planches, dont 5 ou 6 portent une inscription en latin, Insidiosus Aukeps. L'Insidiosus Aukeps, bon, l'oiseleur perfide, est assez, quelque chose assez, qui laisse un peu perplexe. C'est-à-dire que sans le titre, je ne suis pas sûr que j'aurais remarqué qu'au premier plan, dans le bas de la gravure, vous avez Papageno en train de porter ses oiseaux. Ici, le Pagus Nemorosus, la forêt profonde, le paysage de forêt, conduit aussi à distinguer certains... Alors, au lieu de parler éventuellement du bac enlisé, c'est-à-dire que la Koch, je pense, beaucoup plus que Bruegel, propose cette distinction entre des œuvres et par des formules extrêmement synthétiques qui, elles, serviront bien davantage à la naissance des titres. De telle façon que lorsque Colbert fait graver les tableaux de Louis XIV pour le recueil que l'on appelle le cabinet des rois, du roi, il fait ajouter des titres bilingues, et y compris là où ils sont absolument superflus. La Sainte Famille de Jésus-Christ, je pense qu'on arriverait assez bien à la repérer, sans autant après le tableau de Raphaël peint dans, conservé dans la collection royale, et Jésus-Christ à table avec deux de ses disciples dans le château d'Emmaüs. Ce tableau, cette gravure d'ailleurs, si, quand elle est appelée par les amateurs, a un autre titre qui a un surnom, qui est la belle nappe, ce qu'on voit mal dans mon image, c'est-à-dire par la façon assez extraordinaire dont Masson a su rendre compte des plis de la nappe et de la texture de la nappe. C'est-à-dire qu'avec des recueils gravés déjà au XVIIe siècle et a fortiori au XVIIIe siècle, on voit naître ce qui est aujourd'hui aussi indispensable pour les titres. Nous ne pouvons pas reproduire, aucun éditeur ne le permettrait, un tableau ou une image, quelle qu'elle soit, dans un livre, sans lui ajouter une légende qui comprend le nom, le titre, et on y ajoutera aujourd'hui le copyright, ce qui est parfois un petit peu agaçant. C'est-à-dire que, et vous avez pu le voir à l'exposition Mondrian, certains tableaux de Mondrian sont... Je ne parle pas des tableaux même, mais des reproductions dans les articles qui sont dans les parties documentaires de l'exposition, indiquent Pierre Mondrian, tableau et la localisation. Le titre devient tableau comme je ne sais combien d'artistes du XXe siècle ont inventé ce titre aujourd'hui un des plus courants, qui est le sans-titre. Mais sans-titre est quand même un titre. Sans-titre est mis en italique, présenté comme un mode de dénomination auquel on ne peut pas vraiment échapper. Et les gravures de reproduction, justement, sont une place centrale pour l'émergence du titre, et je vous renvoie au livre de Pascal Griner, justement, sur ce développement de l'image au XVIIIe siècle et cette omniprésence des titres, finalement, de ce qui est indicatif, conduit à mieux connaître et mieux comprendre les œuvres. Donc, dans ce contexte, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est la partie principale, mais... Comment parler de l'émergence des titres sans expliquer pourquoi ils n'existaient pas auparavant et sans expliquer ce qu'est un titre, c'est-à-dire comment finalement on s'est mis à réfléchir sur les titres, d'abord en termes d'inscription, puis en termes même de localisation, c'est-à-dire dans une forme de matérialité du titre. Et le texte de l'abbé Dubos que je vous avais lu en début de ce cours a eu, je vous l'ai dit, une vaste postérité pendant l'essentiel du XVIIIe siècle. Il a notamment donné lieu à des discussions, deux conférences perdues à l'Académie que j'aurais presque eu envie de réécrire à la place de leurs auteurs. Mais malheureusement, je pense que j'aurais été surveillé de près par les gens qui ici travaillent pour ces conférences et qui m'auraient demandé de vérifier le manuscrit. Et Juste la réponse à la conférence de Desportes perdue comme une conférence d'un membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres Gros de Beauze conduisent à reposer justement l'importance et indiquer aussi le cadre où émergèrent les titres pour la peinture, qui est l'Académie. Donc Coypel explique qu'il est certain qu'avec une courte explication placée dans un cartouche, c'est-à-dire qu'on sort de l'inscription dans le tableau pour l'inscription dans le cadre. Au bas de la bordure du tableau, nous trouverions en état de traiter non seulement des faits historiques qu'on ose choisir dans le cas qui ne soit pas assez généralement connu, mais aussi nous pourrions saisir dans des sujets des instants singuliers et délicats que nous rejetons dans l'appréhension que le langage muet de la peinture ne fut pas suffisant pour les faire connaître. Je reviendrai sur ce texte la semaine prochaine, évidemment. Il faudrait... Coypel, je vous montrerai tout à l'heure un exemple, a lui-même pratiqué ce principe de l'inscription. L'inscription dans un cartouche, monsieur le directeur général, c'est-à-dire le Normand de Tournehan, m'a permis d'en user ainsi à l'égard de quelques morceaux qui viennent d'être peints pour le service de Sa Majesté. Les sujets de ces tableaux sont tirés des plus célèbres de nos grands auteurs dramatiques. Ceux qui n'en seraient pas prévenus pourraient croire que le peintre ne connaît l'histoire que par les tragédies et ne serait pas bien la connaître. Dans l'histoire, par exemple, etc. Or, j'ai suivi Corneille au lieu de suivre l'histoire. Si ceux qui voient le tableau où cette action est représentée ignorent que le dessin de l'auteur a été de peindre la scène du dernier acte de Rodogune et non pas le fait historique, ils ne manqueront pas, ainsi que j'ai déjà dit, de croire que le peintre n'a étudié l'histoire qu'au parterre de la comédie. L'inscription, bon, pour un peintre littéraire et un peintre de premier peintre du roi sans doute, mais peintre de troisième ordre quand même, comme Charles-Antoine Coypel, le texte devient absolument fondamental. Il explique, il explicite, et j'aurais envie, si du moins malheureusement je n'en ai pas trop le temps, de vous lire les quelques commentaires, on y reviendra dans une autre séance, les quelques commentaires que Baudelaire a commenté, a consacré dans le salon de 46 aux gens qui ont absolument besoin du livret pour sauver la peinture de sentiment. Le singe du sentiment sont en général de mauvais artistes. S'il en était autrement, il ferait autre chose du sentiment. Le singe du sentiment compte surtout sur le livret. Il est à remarquer que le titre du tableau n'en dit jamais le sujet, surtout chez ceux qui, par un agréable mélange d'horreur, mêlent le sentiment à l'esprit. On pourra ainsi, en élargissant la méthode, en arriver au rébus sentimental. Je reviendrai sur ce texte de Baudelaire dans deux semaines, mais d'une certaine façon, Coypel, sans basculer dans le sentiment, a tout autant besoin du livret pour se faire comprendre. Et dans l'ensemble, bon, ce qu'évoque aussi la Fonte Saint-Tienne, pour renouveler les sujets, il faut des titres. Les estampes gravées d'après les tableaux de Rubens ont suppléé par les explications écrites au bas qui les ont dévoilées. Mais comme il y a beaucoup de tableaux qui ne seront point gravés et qui ne seront jamais, leur obscurité pourra durer autant qu'eux. Le plus sûr moyen pour lever ce voile qui nous cache un des plus grands agréments des tableaux historiques, la Fonte Saint-Tienne est quelqu'un qui n'aime que l'histoire dans le tableau, c'est de renouveler l'ancien usage, etc., c'est de placer un cartouche dans le bas du tableau où sera écrit sur un fond très clair et en caractère noir le sujet que le peintre a choisi. On peut encore placer ce cartouche au milieu de la bordure sur un fond jaune, clair ou doré très pâle et jamais argenté parce que ce dernier noircit infailliblement. On peut voir ce défaut dans les bordures des tableaux des chefs-d'œuvre de l'Académie de peinture. Et ce que l'on retrouve un peu plus tard chez l'évêque, l'Académie serait un des premiers lieux où justement on a envisagé, et je vous en montrerai un ou deux exemples ensuite, d'intégrer un cartouche qui porte une inscription. Chez l'évêque, dans l'encyclopédie méthodique, il explique que ce n'est pas si mal, parle aussi de tableau dans la bordure, compare à l'estampe et intègre justement, à mon avis, à mon sens ou à ma connaissance, c'est la première occurrence, le mot titre. Une estampe porte du moins un titre et il serait facile d'en écrire un semblable sur la bordure du tableau. Ceux qui ont vu à Paris les salles de l'Académie royale de peinture et de sculpture savent que ces inscriptions ne feraient pas un mauvais effet. Il y a une revendication justement de ce caractère indissociable qui passe par la matérialité. Un titre est appliqué sur le cartel du tableau, aujourd'hui sur un cartel à côté du tableau, mais le titre même, pour être indissoluble de l'œuvre, doit lui être appliqué s'il n'est pas dans l'œuvre même. On ne peut pas mettre sur le même plan, même si l'archéologie du titre, de nouveau, j'y reviens, peut passer aussi par le biais du livret du salon, mais le livret du salon ne donne pas des titres. Le titre même de ce que nous appelons livret pour le salon, c'est « Explication des tableaux qui ont été présentés par messieurs de la, des tableaux, statues, gravures présentés par messieurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture ». Je vous en donne ainsi un exemple à travers un tableau auquel on a donné le titre, plutôt que l'on appelle par le début de la phrase explicative qui en rencontre dans le livret du salon de 1775. Vénus blessée par Diomède à la guerre de Troie, Iris descend du ciel pour la tirer du champ de bataille, Mars l'aide à monter dans son char pour la conduire sur l'Olympe. L'explication est claire. Le titre « Vénus blessée par Diomède », pendant longtemps, je me suis demandé où était Diomède. Est-ce que Diomède, c'était le monsieur avec le manteau rouge, mais il ne semble pas vraiment blesser la déesse. C'est-à-dire que le caractère « inscription », de nouveau, et c'est pour ça que je tenais à commencer par l'idée du boss propre au titre, fait qu'on ne peut pas conserver une formule aussi longue, sauf, on y reviendra dans deux semaines, lorsque des titres façon « La mariée mise à nu par sa célibataire même » ou étant donné la chute d'eau, et premièrement la chute d'eau, deuxièmement le gaz d'éclairage, viennent à repenser différemment le titre, mais c'est Marcel Duchamp et c'est le XXe siècle. Au-delà, le titre donc passe ou exige une forme de matérialité. Alors, je suis désolé, je vais vous montrer des photos pas absolument satisfaisantes, c'est-à-dire des photos que j'ai prises dans les musées sans avoir prévu qu'un jour je m'intéresserais peut-être plus à ça et à ça qu'au chef-d'œuvre qui est entre les deux, c'est-à-dire juste un des tableaux peints par Charles-Antoine Coypel pour le roi et tableau qui est aujourd'hui conservé au Musée des Beaux-Arts de Lille. C'est un des rares tableaux qui conserve, je l'ai réduite un peu terriblement, sa bordure d'origine, et qui conserve justement sans inscription, l'inscription à coup de redorure a paru superflue. On a ajouté entre-temps, on a pu ajouter des cartels à côté ou latéralement, ce qui fait que les cartouches qui justement témoignaient de cette innovation propre qui est l'invention du titre, ou ici d'une inscription, sont désormais, pour la plupart du temps, demeurées vierges. De même que je vous montre, là aussi, je suis désolé par la façon dont c'est cadré, peut-être que Marie-Catherine Saïd pourra m'aider dans ce domaine-là, des tableaux qui ont été des morceaux de réception, les chefs-d'œuvre dont parle la Fonte Saint-Yenne à l'Académie, peints dans les années 1720-1740. Alors, je suis désolé, le tableau de Valenciennes, je l'ai un petit peu trop renié. Le portrait de Natoire par Lundberg semble avoir son cadre d'origine. Je soupçonne que le tableau d'Amédée Venlot, qui se trouve dans l'église, qui a été déposé dans l'église de l'église Notre-Dame de Versailles, a aussi sa bordure d'origine. C'est-à-dire que l'Académie a intégré, ajouté pour des sujets qui sont pour les tableaux anciens extrêmement complexes, cette dimension qui rend le titre possible. Dimension qui va basculer justement, j'y reviendrai aussi un petit peu la semaine prochaine, dans les questions de muséographie. Et lorsque l'on réencadre à Versailles les deux tableaux qui ont toujours été en pendant dans le Salon de Mars, les reines des pieds perses au pied d'Alexandre de Lebrun et les pèlerins d'Emmaüs de Véronèse, lorsqu'on les réencadre sous le règne de Louis XVI, on prévoit un cartouche, et notamment ce cartouche qui porte le titre « La tente de Darius » par Charles Lebrun. Comment la concision du titre est aussi due à la place du cartouche. Ce qui fait que la tente de Darius, qui n'est qui n'est pas tellement un titre que l'on rencontre au XVIIe siècle, où on parle des reines des pierres aux pieds d'Alexandre, de la continence d'Alexandre, etc. Les tentes de Darius est devenu, y compris dans certains de mes écrits, le titre du tableau. Et en fait, c'est probablement un titre ajouté pour tenir dans le carton, même si naturellement ce ne sont pas les inscriptions d'origine, et les pèlerins d'Emmaüs de Paul Véronèse. Donc, de même que lorsque Louis XVI rachète les tableaux de Le Sieur des Chartreux de l'hôtel de Lambert, le comte d'Angivillers les fait encadrer, et encadrer avec des cadres qui portent des cartouches. On le sent, des cartouches qui aujourd'hui sont vierges d'inscriptions, mais qui signifient et présentent cette naissance du titre. Voilà donc cette espèce de cadre initial qui, à mon sens, va nous servir pour les séances prochaines à mieux penser le titre, mais vous me pardonnerez d'être revenu d'avoir commencé par mon 18e siècle ou 17e siècle cher. Je pense que connaître par les... Sans vouloir trop simplifier, il n'est pas inutile de connaître par les origines pour mieux repenser le rôle du titre dans sa fonction de couleur invisible. Je vous remercie. Thank you.